l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des territoires du monde et de la solidarité internationale.
Eh bien, bonjour à tous. Alors, figurez-vous qu'aujourd'hui, je suis très, très contente parce que j'ai en ma compagnie mon complice de présentation d'émission, donc Michel Collomb, pour ne pas le présenter. Michel, bonjour et ravi de t'avoir auprès de moi et de notre invité. Voilà.
Merci.
Et donc, nous recevons aujourd'hui Adeline Nicoladze, qui est une membre active, c'est ça, hein, Adeline ?
Oui, absolument.
Voilà, on peut dire comme ça. Hein,
tout à fait.
De la CIMAD. Alors, CIMAD, elle va vous présenter la CIMAD en quelques mots.
Alors, la CIMAD, déjà, c'est un très vieux acronyme qui veut dire Comité Intermouvement auprès des évacués. Et en fait, c'est quelque chose qui existe depuis 1939, donc c'est vraiment très, très ancien,
oui.
Qui était à la base, fait pour aider les populations, on disait évacuées, maintenant on dit réfugiées, mais c'est un peu la même chose.
C'était le début de la guerre, à ce
moment-là. Voilà, c'était le début de la guerre, donc c'était les populations en Alsace-Lorraine. Et donc, c'est un mouvement comme ça, qui est donc un mouvement protestant, qui est maintenant un mouvement complètement œcuménique, voilà, et qui était fait pour aider les populations évacuées, les populations réfugiées, à la fois pour leur apporter une aide matérielle et aussi une aide légale, c'est-à-dire leur expliquer quels étaient leurs droits.
Oui, donc déjà, ça se profile, on a le profil, Michel, de la CIMAD actuelle, qui est quand même une aide très précieuse pour les migrants, pour les papiers aussi, le casse-tête des papiers en France.
Et on est aussi dans le siège même de la CIMAD, ici.
Voilà,
de l'univers protestant.
De l'univers protestant.
Voilà, tout à fait, bien que maintenant, effectivement... Bien évidemment, il n'est pas besoin d'être protestant pour être à la CIMAD.
Oui, bien sûr.
Mais voilà. Bon, de toute façon, il faut quand même reconnaître que très souvent, quand même, les associations comme ça qui s'occupent de réfugiés, etc., sont des associations issues du monde, enfin, tout le côté humaniste, sont issues soit du monde protestant, soit du monde catholique.
Oui. Hein, oui,
vraiment, c'est souvent, on retient souvent ces
gens-là. Déjà, on va citer les deux grands, l'Armée du Salut et les Petites Sœurs des Pauvres.
Voilà. Absolument. Ouais. Absolument. Ouais. On a le Secours catholique, on a même la Croix-Rouge. Tous ces organismes sont des organismes qui, à la base, ont été effectivement démarrés par des gens qui avaient envie de faire le bien autour d'eux.
Et moi qui ai travaillé sur le domaine des soins palliatifs, c'est pareil, ça a démarré en France, entre autres à partir justement d'une congrégation religieuse qui prenait soin des personnes en fin de vie.
D'accord.
Donc pour dire que même là, on retrouve l'empreinte religieuse au départ. Voilà, après c'est vrai que ça a évolué, on
après,
est sur la
après,
laïcité.
Ça évolue.
Et comme tu dis, il y a un grand œcuménisme, on peut témoigner ça ici, Michel, l'œcuménisme vraiment de ces lieux, quoi, de ce lieu qui nous accueille.
Alors, cet œcuménisme n'est pas au niveau des financements, hein, il faut bien le reconnaître, car c'est souvent un obstacle pour avoir une subvention
tout à fait.
Auprès des institutions. On vous reproche de ne pas être laïque en quelque sorte.
Oui, souvent c'est ça, c'est vrai. Ça peut être un frein, malheureusement.
Oui. Bon, c'est un peu dommage, parce que laïque, de fait, vous l'êtes.
Bien sûr. Mais par essence, il y a tellement une confusion en France, merci Michel d'ailleurs de le dire, parce qu'il y a une confusion entre la laïcité et l'athéisme.
Tout à fait.
Beaucoup de gens confondent.
C'est vrai.
On peut se prétendre catholique ou protestant ou bouddhiste ou je ne sais pas quoi, et en même temps être très laïque, accepter la diversité.
Voilà. Oui, mais c'est vrai qu'on confond un peu.
Un petit aparté, mais c'est bien, ça nous envole un petit peu vers des considérations aussi un peu plus élevées. Et donc, Adeline, il faudrait nous expliquer un petit peu comment fonctionne la CIMAD. Alors, la CIMAD a traversé le temps.
Absolument, la CIMAD a traversé le temps. La CIMAD s'adapte aux évolutions. Et aujourd'hui, la CIMAD, c'est donc une association qui s'occupe essentiellement de l'accueil des étrangers. Donc, alors, quand je dis l'accueil, attention, nous ne gérons pas d'hébergement.
Oui, non, mais c'est bien de le préciser parce que souvent...
On dit toujours ni hébergement, ni argent. Voilà. Donc, la CIMAD est une association composée de bénévoles. Il y a un salarié, une seule salariée, qui est en fait la responsable de la région. C'est l'ancienne région.
Ah oui, régionale aussi.
Languedoc-Roussillon. Voilà. Il y a des salariés au bureau à Paris. Mais sinon, ça ne fonctionne qu'avec des bénévoles. Ça, il faut le savoir, parce que même souvent, les personnes étrangères qui viennent nous voir pour des demandes voilà, d'administratives, pour des demandes d'aide à l'écriture, etc., pensent que nous sommes comme, comme d'autres associations subventionnées par la mairie ou payées par la mairie, que nous sommes des travailleurs. Alors non, on est entièrement bénévoles. Donc, on est organisé en plusieurs groupes. Donc voilà, c'est l'accueil des étrangers et c'est aussi dire le droit des étrangers. Donc, ça, on fait un accueil qu'on appelle inconditionnel, c'est-à-dire que nous, on ne porte pas de jugement sur les gens qui viennent, sur le pourquoi ils sont ici, comment ils sont arrivés, est-ce qu'ils ont le droit d'être là ou pas. Ça, ce n'est pas du tout notre mission. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur dit leurs droits et on les aide, s'ils ont besoin, dans toutes leurs démarches, depuis les démarches administratives, en passant par les démarches pour la demande d'asile, et ensuite pour les démarches concernant leur intégration. Parce qu'on sait à quel point l'administration française est compliquée, même pour des gens qui sont nés en France. Et une fois que les étrangers...
Ah bon, je croyais que c'était...
Et donc, une fois que les étrangers qui vivent ici ont eux aussi parfois bien besoin d'aide. Donc, on a des permanences. On a d'abord des permanences téléphoniques tous les jours pour que les gens puissent appeler, parce que beaucoup de gens ont juste besoin d'un renseignement. Et puis après, on a des permanences physiques. Voilà, et on a plusieurs groupes comme ça. Le groupe qui s'occupe des gens qui demandent l'asile, le groupe qui s'occupe des gens qui veulent un titre de séjour, qui demandent le droit au séjour. On accueille aussi Réseau Éducation Sans Frontières, qui s'occupe plus particulièrement des jeunes qui ont besoin d'être scolarisés, qui ne savent pas trop comment faire. On a aussi un groupe qui s'appelle Les Amoureux au banc public, qui s'occupe des couples appelés mixtes, c'est-à-dire français et hors Union européenne, ou européens et hors Union européenne. Voilà, et on essaye de faire des accueils comme ça un peu chaleureux. On a aussi, on a démarré cette année un atelier couture, voilà, avec l'idée que la couture pouvait être un moyen pour apprendre le français. Parce qu'on donne aussi des cours de français, il y a aussi un groupe pour les gens, mais malheureusement, on n'a pas assez de salles, on n'a pas assez de bénévoles, parce que c'est un gros investissement. Et c'est vrai que très souvent, notamment pour les demandeurs d'asile, les gens qui sont là n'ont pas encore droit à avoir des cours de français. Donc, ils vont dans des associations. Et c'est difficile d'apprendre le français, hein, tout le monde le sait. Donc, on s'est dit que par le biais d'une activité de couture, donc on a ouvert un petit atelier de couture où il y a une personne étrangère qui est là, qui donne des cours, et chacun vient avec son petit bout de tissu. Et c'est vrai que c'est très agréable parce que ça facilite le contact. En plus, c'est souvent des dames qui viennent, alors qu'elles viennent moins au cours de français parce qu'il y a les enfants, parce que tout ça, c'est compliqué. Donc, c'est très sympa.
Et c'est d'autant plus utile que beaucoup de jeunes filles, en particulier venant d'Afrique, ont déjà une certaine connaissance de la
tout
culture.
À fait.
Et elles sont rassurées de
voir qu'elles peuvent participer. Oui, ça les rassure et ça leur donne confiance.
Oui, non, c'est la couture, c'est bien. Si on pouvait, on ferait des ateliers cuisine, mais là, ça demande une organisation beaucoup plus compliquée.
Oui, ça demande du matériel,
Du matériel, des cuisines, des autorisations pour l'hygiène et tout ça. Donc, pour l'instant, on fait la couture.
Alors, moi, je vais faire un petit témoignage perso, à savoir que donc, je connais Adeline depuis longtemps. Et qu'il y a 2 ans à peu près, je soutenais pas mal un jeune, c'était un journaliste de la télévision de son pays africain qui s'était évadé de prison parce que évidemment il n'était pas d'accord avec le président et donc il était réfugié et il avait fait une demande d'asile politique et je l'avais emmené à une réunion où je savais qu'on verrait Adeline
donc
je lui ai présenté Adeline. Il devait repartir 2 jours après et il était dans tous ses états. Alors moi, je le boostais comme je pouvais. Et Adeline l'a pris, mais vraiment en quelques mots. Hein, ça a été rapide. Elle lui a dit, ben, quand on va te demander ça, tu fais attention. Réponds comme ci, réponds comme ça. Enfin, elle l'a vraiment guidé. Et il a eu, alors que c'est très rare, et même toi, tu n'y croyais pas.
Oui.
Il a eu son asile, il a obtenu l'asile, il était heureux. Oui, oui. Et là, je n'ai pas trop de ses nouvelles, mais il a un travail, il est en train de faire les démarches pour faire venir sa petite famille qui est restée au pays. Quoi. Voilà. Donc, pour dire que, comment à un moment, cet accompagnement, ou le fait voilà, d'avoir quelqu'un en face de soi qui vous booste, et qui vous dit aussi la marche à suivre, parce que, comme tu dis, c'est très compliqué. Hein.
C'est très compliqué, c'est très difficile, contrairement à ce que croit le grand public. Le taux d'acceptation de l'asile, il est maintenant, et encore il a augmenté parce que le dernier responsable de l'OFI a beaucoup œuvré pour ça, à 45%. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une personne sur deux qui demande l'asile et qui ne l'obtient pas. Mm-hmm. Hein, donc c'est pas tout le monde qui demande l'asile qui l'obtient. Mm-hmm. Et en plus, ça dépend énormément des pays. Mmh. Des pays d'origine. Mmh. Voilà. Donc, c'est quand même un long parcours. Et c'est vrai que ce sont souvent des gens qui ont mis très longtemps à arriver. Voilà. Parfois, on a mis un an et demi pour arriver jusqu'en Europe. Donc, c'est vrai que c'est très complexe parce qu'une fois que vous êtes là, ben, en général, vous n'allez pas repartir. Mmh. C'est clair. Mmh. Voilà. Et donc, si vous n'obtenez pas l'asile, eh ben, la situation est très difficile. Alors nous, à la CIMADE, on ne dit pas aux gens ce qu'ils doivent faire. On leur dit, voilà, on leur dit les possibilités. Si vous n'obtenez pas l'asile, ben, soit vous rentrez chez vous. Donc ça veut dire rentrer en Afghanistan, rentrer en Indonésie, rentrer au Bangladesh.
Tout va bien.
Voilà, rentrer au Burkina Faso. Enfin, voilà, c'est ça, la réalité, c'est ça. C'est que quand on dit aux gens, non, vous n'êtes pas reconnu comme demandeur d'asile, eh ben, au bout d'un mois, vous recevez la fameuse OQTF, là dont on parle tant, et normalement, vous êtes censé repartir chez vous. Bon. Donc forcément, une grande partie des gens ne rentrent pas et restent ici. Et donc, donc nous, on leur explique ce qui va leur arriver, malheureusement, s'ils restent ici. Parce que, alors en plus, jusqu'à janvier, là, quand on avait donc cette obligation de quitter le territoire, elle était valable pendant un an. Et donc, après, une fois que c'était plus d'actualité, si entre-temps, on avait trouvé du travail, si on parlait français, si on s'était un peu inséré dans la société française, on pouvait demander ce qu'on appelait une régularisation, c'est-à-dire un titre de séjour au titre, justement, ben, soit de la famille, par exemple, si on s'était marié, qu'on a eu des enfants, qui étaient scolarisés. Bon, maintenant, ces OQTF, avec la nouvelle loi de M. Retailleau, elles durent 3 ans. Donc ça veut dire que pendant 3 ans, de toute façon, la personne, elle ne peut rien faire. Mmh. Voilà. Mmh. Donc c'est très compliqué, parce que ça veut dire qu'on est complètement en suspens. Bon, donc elle a été faite, j'imagine, cette loi avec l'idée que les gens allaient rentrer chez eux, mais force est de constater que les gens ne rentrent pas. C'est extrêmement rare que les gens rentrent. Mmh. Voilà. Donc c'est vraiment compliqué. Nous, ça nous rend très malheureux quand on voit arriver des gens qui nous disent ben voilà, j'ai été refusé, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et on est un peu dans une espèce de flou administratif parce que. Alors, ce qui est très drôle quand même en France, c'est que on a par exemple. On a le droit de déclarer ses impôts, même si on est en situation irrégulière. Donc, on peut aller tous les ans aux impôts et dire « je veux un document qui dit que je ne paye pas d'impôts ». Donc, voilà, on a le droit de faire ça. On a le droit... Enfin, on peut être régularisé par le travail. Donc, ça suppose qu'on a travaillé sans avoir eu le droit de travailler.
Sans être en règle. Voilà,
sans être en règle. Donc, les gens nous disent « mais comment je vais pouvoir prouver que j'ai travaillé puisque normalement, je n'ai pas eu le droit de travailler ». Les entrepreneurs nous disent « mais... nous, on veut bien les embaucher parce qu'on a quand même beaucoup besoin de travail. Mmh. Voilà, là, moi, je m'occupe d'un jeune homme qui veut être boucher. Et je peux vous assurer qu'il y a plein d'employeurs qui veulent le prendre parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup de jeunes en France qui ont envie d'être boucher. Bon, ou apprendre
tout
boucher.
À fait.
Mmh. Bon. Mais il dit, mais comment je vais faire? Parce que si je l'embauche, ben, je vais être dans l'illégalité. Mmh. Mais après, si je l'embauche... Bon, donc, tout ça, c'est très compliqué. Il y a une espèce d'un peu d'hypocrisie comme ça où les choses ne sont pas très claires. Et c'est difficile parce que c'est des parcours très, 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 très compliqués. Et on met beaucoup les gens dans l'insécurité.
Absolument. Alors, ce que je trouve justement aussi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que quand Adeline, quand je disais qu'Adeline avait bien, mon jeune là, que je soutenais, lui avait bien mis les points sur les i, etc., c'est que nous-mêmes, quelquefois, Michel, je pense que tu vas être d'accord avec moi, nous-mêmes, quelquefois, dans l'administration, on sait, des fois, on est un peu dans le flou. C'est un peu compliqué pour nous qui sommes français, nés en France, et sans aucun problème en plus, sans aucune difficulté, puisque. En principe, on est en règle. Alors, imaginons un étranger qui ne connaît pas la culture, qui, en plus, cette administration est monstrueuse, je vais dire comme ça.
De plus en plus dématérialisée.
De plus en plus dématérialisée. On se dit, mais comment peuvent-ils y arriver? Alors que les pauvres, ils sont déjà... Puis en plus, ils sont dans l'anxiété, ils sont dans l'insécurité totale, dans
le stress,
dans le besoin, souvent, mal logé ou pas logé, mal nourri ou pas... Ben voilà. Donc,
c'est très compliqué.
On va dire que la CIMADE... J'espère que cette émission ne va pas vous ramener trop de...
Non, mais c'est vrai qu'en même temps, c'est là qu'on se sent aussi utile, parce que c'est vrai que, comme tu dis, cette administration-là, qui est de plus en plus dématérialisée, je veux dire, même pour nous, maintenant, il faut téléphoner pour avoir rendez-vous, on tombe sur un disque, ou sur une intelligence artificielle là, qui nous fait répéter 4 fois la même chose. Et donc, c'est vrai que cette aide administrative, on va dire... qu'en fait, malheureusement, les assistantes sociales n'ont pas le temps de faire. L'autre jour, j'ai accompagné un demandeur d'asile au CCAS, à l'assistante sociale, parce qu'il voulait prendre rendez-vous à la CAF. C'était quelqu'un qui avait ses papiers, qui était tout à fait... Bon, mais évidemment, il ne parlait pas assez bien français pour comprendre le disque. Bon. Et l'assistante sociale me dit, « Ah, mais moi, je ne peux pas le faire. » Parce que quand on appelle, je ne me souviens plus, c'est le 36-13. Le temps d'attente moyen, c'est 40 minutes. Et moi... Je n'ai pas plus de 30 minutes avec chaque personne. J'ai des normes, je ne peux pas passer plus de 30 minutes avec une personne. Ouais. Donc du coup, bon, bah, c'est nous qui l'avons fait, elle m'a expliqué. Bon. Donc on se dit, bah, voilà, au moins, on fait ça. Mais c'est quand même dramatique.
Oui, c'est dramatique. Ouais.
Et pour tout, c'est comme ça maintenant. Il y a très peu d'endroits où vous avez une personne, vous allez, par exemple à Montpellier, maintenant on ne peut plus aller à la Sécu, à la CPM, sans avoir rendez-vous. Donc il faut commencer par téléphoner au 36 quelque chose, écoutez des disques qui vous disent faites-le 1, faites-le 2, dites ce que vous voulez. Et ensuite, prendre rendez-vous. Donc, comme tu dis, déjà pour nous, c'est très compliqué. Tout est informatisé maintenant. Toutes les demandes se font sur ordinateur. Donc, effectivement, bah, si on lit pas correctement le français, c'est impossible. Mais c'est même vrai pour des personnes françaises, hein, puisque maintenant, il y a même des points dans les maisons. J'ai vu dans les maisons de quartier, il y a des points France Service.
Oui. Voilà. C'est très bien, ça, d'ailleurs.
Pour aider les gens. Ouais. Donc, on se dit, bon, ben voilà, au moins, voilà, on peut. C'est pas vraiment ce qu'on faisait au départ, parce qu'au départ, on était plus là pour accompagner les gens de façon plus personnelle, sur leur récit, sur leurs difficultés. Mais. Toute cette complexité administrative qui permet après aux gens en plus de bien s'intégrer. Parce que si on ne fait pas ça, eh ben les gens du coup, ils connaissent pas leurs droits, alors ils ne savent pas tout ce qu'il faut faire. Et ça, c'est vrai que c'est quand même un souci, parce que ça n'a pas été anticipé. En fait, du tout.
Surtout que moi, ça m'est arrivé, alors je ne sais pas à vous, mais moi, ça m'est arrivé d'avoir la chance d'avoir quelqu'un au téléphone pour faire une manip, enfin un truc comme ça, et que même la personne sur place, du service, n'y arrive pas.
Oui,
ça m'est déjà arrivé.
Ah oui,
alors là on hallucine, on se dit, mais c'est pas possible. Alors en plus, des gens comme ça, et puis, qui stressés, qui comprennent pas bien la langue. Déjà, même chez nous, il y en a. Hein.
Oui, non, mais
des
bien sûr.
Des gens malentendants, ou qui ont une question d'accent aussi, selon où ils vivent. Vraiment, bon, mais franchement, c'est vrai que
Non, mais c'est très, ça devient.
Alors
très...
je dis pas que les Français doivent aller à la CIMADE. Hein.
Non.
Me faites pas dire ce que je veux pas dire.
Non. Mais bon, et après, il faut se souvenir aussi qu'une personne étrangère. Bon, elle est étrangère, mais elle est autre chose. Donc, c'est comme pour nous. Il y a de tout. Il y a des gens qui sont très cultivés, qui ont, dans leur pays, ont eu accès à l'Internet, à toutes ces... Et puis des gens qui arrivent, effectivement, d'un milieu beaucoup plus défavorisé, des gens qui n'ont pas été à l'école, par exemple. Nous, on reçoit beaucoup de gens. Par exemple, en ce moment, on a beaucoup d'Afghans. Bon, alors... Comme ils sont jeunes, ils vont apprendre très vite. Mais ce sont des gens, par exemple, qui n'ont quasiment pas été à l'école. Je ne vous parle pas des filles qui, elles, de toute façon, à part avoir appris le Coran, n'ont rien appris. Donc, toute cette complexité culturelle qui fait qu'on arrive à se débrouiller un petit peu, c'est aussi tout ça qu'il faut remettre en route. Hein? Donc, c'est comme en France. Hein, ce n'était pas la même chose quand vous veniez de la campagne et que vous vouliez vous adapter à la ville et à la complexité de la ville. que quand vous étiez déjà, déjà éduqué.
Tout à fait.
Et l'éducation, c'est quand même, c'est quelque chose qui est très différent. Et ça change.
On est, alors peut-être qu'on peut faire une petite pause musicale.
Ah oui, avec
et alors
plaisir.
Adeline nous a choisi un morceau. Alors c'est un super morceau d'ailleurs. Tu l'annonces ?
Oui, alors c'est un morceau de Bob Marley.
Bob Marley, voilà.
Voilà.
C'est bien c'est rythmé.
Bien rythmé pour nous donner un peu la pêche.
Le bon tempo.
Le bon tempo.
À
absolument.
Tout à l'heure. À tout à l'heure. Eh bien, nous revoilà sur le plateau. Je suis toujours en compagnie de mon cher complice, Michel. Voilà. Et puis, nous recevons aujourd'hui Adeline Nicoladze de la CIMAD, qui nous a déjà un peu expliqué le parcours du combattant pour les gens qui veulent trouver refuge chez nous, en France, avec tous ces obstacles administratifs que nous, Français, nous connaissons bien, mais qui sont moins dramatiques peut-être pour nous que pour des gens qui arrivent et qui sont complètement... N'est-ce pas, Michel ?
Et on a la chance quand même d'avoir un échantillonnage abondant d'associations qui, dans notre région, et en particulier à Montpellier, qui nous aident un peu à orienter les gens vers les bonnes solutions. Quoi.
Oui, oui. Alors la CIMAD, c'est beaucoup, beaucoup administratif, hein, ce que tu nous disais.
Enfin, c'est administratif aussi aussi beaucoup le suivi des personnes.
Et suivi des personnes. Et après, il y a beaucoup d'associations après, qui sont issues des pays d'ailleurs de, où il y a de l'immigration, qui aussi offrent leur secours. Et puis bon, il y a aussi d'autres... Et puis il y a après le secours populaire, le secours catholique, etc., qui eux proposent plus des choses, plus matérielles aussi.
Plus matérielles. Et après, c'est vrai qu'on voit que dans les villages, par exemple, autour de Montpellier, il y a aussi beaucoup de petites associations avec qui nous sollicitent ou avec qui on travaille et qui s'occupent effectivement des étrangers. Beaucoup de petites assos, des familles par exemple qui ont envie de faire quelque chose et qui vont nous appeler en nous disant ben voilà, l'autre jour j'ai eu un monsieur qui m'a appelé, il était dans le Gard, dans les Cévennes. Et il avait croisé tout à fait par hasard une famille de Vénézuéliens avec des enfants qui venaient d'arriver. Et bon, il les avait accueillis chez lui et il ne savait pas du tout quoi faire. Enfin, il disait, voilà, je ne sais pas, ces gens-là me disent que... Est-ce qu'ils veulent demander l'asile? Qu'est-ce que je peux faire pour eux? Bon, et il y a aussi beaucoup de gens comme ça. Parce que, bon, on a parfois l'impression que, voilà, quand on écoute les médias, que c'est terrible, que tout le monde en a assez, que, etc., etc. Mais en fait... Non, il y a beaucoup de gens qui, heureusement, de façon plus personnelle, plus humaine, ben voilà, vont rencontrer des gens et puis ils vont s'enrichir parce que c'est un enrichissement pour tout le monde. Donc ça, c'est aussi, pour nous, c'est aussi agréable de pouvoir dire aux gens, ben voilà, nous, on est là. Si vous intéressez aux droits des étrangers ou si vous croisez des étrangers et que vous ne savez pas quoi faire, eh ben, vous pouvez nous appeler. Et nous, on peut vous donner voilà, des conseils, on peut vous donner voilà, le nom, comme tu dis, de d'autres associations qui font aussi voilà, des choses plus matérielles, l'aide alimentaire, tout ça. Et c'est pas mal. Et alors maintenant que nous avons retrouvé, parce qu'à la CIMAD à Montpellier, on était dans des très beaux locaux, mais qui malheureusement étaient très anciens. Donc on a dû faire des travaux qui, comme tous travaux, ont mis beaucoup plus de temps
que prévu.
Heureusement, le carrousel nous a accueillis pendant un an de façon formidable. Bon, puis après, on a dû redéménager. Et là, maintenant, ça y est, depuis à partir de demain, on est de nouveau 28 rue du Faubourg Boutonnet. Donc ça, ce sont nos propres locaux. Donc ça va être très bien parce qu'on va pouvoir faire un accueil beaucoup plus posé, beaucoup plus agréable. On va avoir des permanences téléphoniques et des permanences physiques. Donc voilà, tous les gens qui vont vouloir passer pourront venir. Mais c'est ça aussi, je veux dire, c'est vrai que, bon, voilà, la CIMAD, on s'occupe des étrangers, mais on voit aussi qu'il y a d'autres gens, d'autres associations, des gens qui vont nous dire, ben, par exemple, moi, je serais prête à faire du parrainage, à accompagner quelqu'un, à prendre en charge une personne, et puis, ben, quand je vais au cinéma, je l'amène au cinéma, ou quand je vais au musée, à la bibliothèque, par exemple. Bon, et ça, c'est vraiment super, parce que ça nous permet de rencontrer des tas de gens très, très différents. Pas forcément des gens qui ont envie de s'investir une fois par semaine, parce que c'est vrai que c'est lourd le bénévolat. T'es bien placé pour le savoir. Voilà, c'est quelque chose qui... D'abord, ça demande du temps. Donc, tout le monde n'a pas forcément de temps. C'est vrai que les gens qui sont plus jeunes, bon, parce qu'on est quand même des gens plutôt... Voilà, on va dire plutôt des retraités, parce que ça demande du temps et que bah, les jeunes, hein, la tranche 30-50 ans...
Elle est occupée par son emploi.
Elle est occupée par son emploi, elle est occupée par les enfants, elle est occupée par beaucoup de choses. Ouais. Mais parfois, eh ben, ils ont du temps. L'autre jour, il y a un jeune homme qui est venu nous voir, justement, il avait dit « Ah, j'ai entendu parler de la CIMAD, je voulais savoir ce que vous faisiez. » Donc, je lui ai expliqué, il m'a dit « Non, moi, vraiment, je ne peux pas venir une fois par semaine parce que je travaille. » Bon. Et je lui ai dit, mais est-ce que parce que bon, et il est, alors c'est un jeune homme qui était passionné de foot. Bon. Donc il m'a dit, voilà, moi, je suis dans un petit club de quartier, aux Beaux-Arts, je fais du foot. Je lui ai dit, bah, écoutez, moi, si vous voulez, je peux vous présenter des jeunes hommes, qui, je sais qu'ils jouent au foot, parce qu'ils m'en ont parlé, mais ils jouent au foot tout seuls, là. Ils vont dans un terrain, ou parfois ils vont dans un endroit, même pas, je ne pense pas que ça soit trop l'endroit pour aller jouer au foot. Je lui ai dit, si vous voulez, moi, je vous les présente, et si vous voulez, je vous leur dire, bah, venez jouer dans notre club ou jouer avec nous. Voilà. Il a fait ça. Bon, ça a marché avec, c'était un jeune Afghan, justement, qui était passionné de foot. Et depuis, eh ben une fois par semaine, il le prend sous son bras Il l'amène jouer avec les autres.
Club.
Voilà. Et il m'a dit, c'est super. Mmh. Parce que, alors, d'abord, pour le coup, là, l'autre, le jeune Afghan, il commence à apprendre le français. Parce que même si on ne parle pas beaucoup quand on fait du foot, on parle quand même. des mots tout bêtes. Hein. Il me dit, voilà, je lui ai appris le mot crampon, protège tibia, des trucs comme ça. Et le jeune Afghan, il est ravi. Parce qu'en plus, du coup, il voit des Français, enfin des gens de Montpellier qu'il n'aurait jamais rencontré. Et voilà, et ça, je trouve que c'est super parce que c'est ça aussi qu'on peut faire. Permettre à des gens qui, a priori, voilà, c'est pas, vont pas aller donner des cours de français, s'investir, etc. Mais juste des petites rencontres comme ça et qui permet aux étrangers quand même de mieux s'intégrer parce que vivre entre soi, c'est bon pour personne, ni pour les Français, ni pour les étrangers. Mmh. Hein. Donc, toutes ces activités comme ça, finalement, s'il y a des gens qui ont envie de faire ça, voilà. Moi, je sais qu'à la médiathèque, là, Émile Zola, une fois par semaine, il y a des ateliers, le jeudi, je crois que c'est le jeudi à 18h, pendant une heure, de conversation. Donc, les gens, ils y vont, et puis, ils discutent. Il y a une dame qui accompagne des gens qui veulent aller à la médiathèque, parce que la médiathèque, c'est quand même un endroit formidable. Mmh. Parce que même si on ne sait pas lire le français, il y a quand même tout cet espace, tu sais, en bas, là où il y a les magazines et tout ça. Exactement. On peut regarder. Il y a même la télé maintenant. Ils ont même mis la télé. Et puis, moi, je trouve que c'est un super outil d'intégration. Parce que, d'abord, tous les gens aiment bien, parce qu'il y a des magazines. Alors, il y a des magazines de tout, de ça, foot, d'auto, de mode. De... on a quand même beaucoup de familles qui ont des enfants. Donc, moi, je trouve qu'amener ses enfants dans une bibliothèque, c'est chouette. Bon, donc voilà, on peut aussi faire des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, en fait, qu'on peut faire avec des personnes étrangères qui sortent. Voilà, c'est pas ces gens-là, ils vont pas aller à la permanence de la CIMAD, mais c'est aussi, c'est comme si on avait plusieurs branches, plusieurs possibilités. Donc ça, c'est quand même très sympa. Et puis ça permet des chouettes rencontres quand même, hein, parce que...
Oui, d'ailleurs, c'est intéressant, Michel, parce que bon, nous, quand même, qui fréquentons pas mal la Maison des Territoires du Monde,
oui.
qui d'ailleurs produit cette émission, c'est vrai que je ne sais pas si c'est aussi clair pour tous les adhérents, parce qu'il y a quand même je ne sais plus combien d'associations.
Vous êtes très nombreux, c'est à la Maison du Tiers-Monde.
La difficulté de la Maison des Territoires du Monde, c'est d'être un collectif d'associations, mais ces associations ont chacune une activité
proférente, bien sûr.
Et la difficulté, c'est de trouver des forces communes pour pouvoir mettre sur place dans les lieux de la Maison des Territoires du Monde une activité comme par exemple la scolarisation des jeunes migrants.
Tout à fait, hein, par exemple.
Qu'on a accepté, qui doit demander quand même beaucoup d'efforts. Mais moi, je sais par exemple que je n'étais pas en mesure de prendre la responsabilité d'un groupe de ces jeunes migrants parce que moi, j'ai d'autres activités.
Bon. Oui, bien sûr.
Et donc, je m'en voulais un peu de les laisser tomber, mais c'était quand même...
Mais sinon, moi, je pensais aussi qu'on peut diffuser la Maison des Territoires du Monde avec tous ses adhérents, peut diffuser à toutes ces associations qui agissent essentiellement sur l'international aussi, puisque voilà, et qu'on peut diffuser déjà, leur rappeler que la CIMAD est là avec les coordonnées.
Absolument.
Et que s'ils ont des renseignements ou s'ils veulent envoyer des personnes,
exactement,
parce que là aussi...
Hein, exactement.
Voilà, c'est à ça aussi que je pensais, oui, effectivement.
Oui,
c'est vrai qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire.
Oui, bien sûr. Déjà, rien que ce lieu, je trouve ça formidable, le lieu de la Maison des Territoires.
Il est très central. Hein,
c'est magnifique de pouvoir disposer d'un lieu comme ça, quand même. Ça, c'est quand même une grande chance.
Il y a quand même, je ne sais pas combien d'associations maintenant, on a des nouvelles là.
On a 33 actuellement.
Voilà. Ouais. Donc, les associations, et c'est vrai que ça ouvre aussi sur la diffusion, hein, la diffusion de cette possibilité, par exemple.
Ben oui,
aujourd'hui, on vient de
tout à fait,
de recevoir, voilà, dire oui, on oui, vous rappelle la CIMADE au cas où il y aurait besoin de renseignements, etc., etc. Et puis oui, voilà, et puis c'est bien de diffuser. Alors moi j'avais, j'ai découvert quand même des choses. J'ai découvert des choses. C'est que quand même aussi la CIMADE diffuse aussi, donne des possibilités aux gens d'avoir des lieux, hein, de stimulation, d'intérêt, etc. Que je connaissais pas. Je connaissais plutôt le côté légal, le côté orientation, etc.
On se déplace. Et ben là, il y a 15 jours, j'accompagnais une jeune femme afghane qui est réfugiée à l'université parce qu'on regardait avec elle les programmes pour l'année prochaine. Et j'ai découvert, alors moi pour le coup, je ne connaissais pas l'épicerie solidaire de l'université Paul Valéry.
Oui.
Je ne savais pas du tout qu'il y avait ça. Et alors, c'était très agréable parce que je les ai découverts et ils nous ont découverts. Ils m'ont dit, mais vous êtes qui? Je leur ai dit, ben voilà, je suis une personne de la CIMADE, j'accompagne parce qu'ils ont beaucoup d'étudiants étrangers. Alors, pas forcément d'ailleurs des gens réfugiés, hein, ils ont des étudiants étrangers, etc. Et ils m'ont dit, mais est-ce qu'on peut vous envoyer des... Ben voilà, il y avait un jeune homme, je crois, qui venait de Pologne. Bon, alors lui, ce n'était pas du tout une personne réfugiée, c'était une personne qui avait un visa étudiant, mais qui avait des questions, justement, sur en France, comment... Je lui ai dit, mais avec plaisir. Voilà, et c'est ça qui est très agréable aussi, c'est qu'on rencontre d'autres partenaires, voilà, et ça nous permet de... On sort aussi de nos locaux.
D'accord. Bon, alors, voilà. on a découvert d'autres aspects. C'était bien, on a bien fait de la recevoir aujourd'hui, hein, Michel.
Merci de m'avoir invité.
Alors, est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'il y a des adresses, une adresse mail, un site internet, une adresse postale, une
alors,
adresse...
Alors, il faut taper dans Google CIMADE Montpellier.
Voilà.
Et là, vous avez l'adresse et un numéro de téléphone, qui est le numéro de téléphone de la permanence téléphonique. Vous pouvez appeler.
D'accord.
Voilà. Et donc sinon, voilà. 28 rue du Faubourg Boutonnet.
Alors, CIMADE, C-I-M-A-D-E. Voilà, ça voilà. S'écrit comme ça. Voilà, né en 1939, et vous voyez qu'il a bien vieilli, bien mûri.
Absolument.
Voilà, donc c'était un grand plaisir qu'on a reçu aujourd'hui Adeline, hein, Michel. Voilà, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et... D'ailleurs, ce sera peut-être toi, c'est Michel, la semaine prochaine.
Sur Radio voilà. FM.
Et sur Radio FM+. Et je remercie Yann, notre technicien, qui est tellement patient avec nous et bienfaisant. Et voilà. Merci beaucoup, Yann.
Merci. Merci, Yann.